apaiser notre conscience. Alléluia. Ce ne sont pas des phrases que nous disons pour juste passer du temps, mais ce sont des choses vérifiables. Je peux voir ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui. Il y a une nette différence. Alléluia. Merveilleux Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a été affranchi par Dieu est là ce matin et il peut acclamer le Seigneur. Un affranchi de Dieu peut acclamer le Seigneur. Un affranchi de Dieu peut pousser des cris de joie en son honneur. Je m'étonne que tu sois assis alors que l'œuvre que le Seigneur a faite est tellement grande. Je m'étonne que tu sois assis alors que l'œuvre que le Seigneur a accomplie est tellement grande. L'œuvre du grand roi est tellement grande. Elle mérite toutes nos acclamations. Elle mérite tout notre enthousiasme. Elle mérite toutes nos acclamations. Alléluia! L'œuvre de Jésus mérite toutes nos acclamations. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Alléluia. Amen. Wow. 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 Mon Dieu. Sincèrement parlant, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Mais je dis grandement merci à Dieu. Grandement merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce qu'il nous renouvelle ce matin, à ce second service d'être là pour parler de sa part. Rassurez-vous que ce n'est pas parce que nous connaissons plus que les autres, non. Parce que nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre et nous n'avons pas encore fini d'apprendre. Nous continuons à apprendre. Mais le Seigneur a voulu seulement que ce soit nous aujourd'hui. Peut-être demain que ça sera toi, peut-être demain ça sera l'autre. Que le Seigneur soit béni. Merci également à notre Père qui est à Boma actuellement pour son choix porté sur nous. Vous savez, faire confiance à la jeunesse dans notre génération d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand je suis ici devant les papas, devant mes papas, devant mes mamans, devant mes frères et sœurs, je tremble et je dis que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide. Merci à lui en tout cas pour la confiance. Il ne cesse de nous encadrer, de nous orienter. Et merci à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci mes amis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Non, ceux qui sont ici dans la salle ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Mais eux-mêmes savent. Pourquoi est-ce que... Eux-mêmes savent. N'est-ce pas, vous savez, non? Eux-mêmes savent pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Gloire soit rendue à notre Dieu. Les voir nous bénir comme ça, ce n'est pas un fruit d'hier ni d'aujourd'hui. Ça date de très très longtemps. Et merci aux parents qui nous font confiance. Que le Seigneur continue à vous bénir. Et nous sommes là, nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur. Merci. Nous ouvrons nos Bibles, nous serons aujourd'hui dans Nombre chapitre 23, les versets 18 et les versets 19. C'est un texte que nous connaissons, Nombre 23, 18 à 19. Vous me supporterez la voix, vous supporterez ma voix peut-être parce que la semaine on a beaucoup crié et tout, mais on est là encore pour parler de la part du Seigneur. Je disais donc Nombre 23, les versets 18 et les versets 19e. Nous sommes là, c'est affiché aux écrans, nous pouvons lire au nom de Jésus. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. » Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme. Ainsi, c'est avec force et avec confiance, avec toute la conviction que je viens devant un homme, devant une femme, devant un jeune homme, devant une jeune fille, un papa, une maman, ce matin, pour leur affirmer cette parole. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit dans ta parole Et ce que tu as dit, nous le voyons. Nous voyons l'exécution. Nous voyons notre Dieu, tes promesses être vraies, être vécues dans la vie des hommes. Merci Seigneur. Nous te faisons confiance pour cela. Nous t'aimons car tu es notre Dieu. Merci de nous envoyer ta parole. Tu nous tiens la main, nous sommes faibles. Nous avons besoin de parler avec ta force. Prête-la à nous Seigneur, afin que nous communiquions la vie à ton peuple. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons recevoir la parole de Dieu? Non, nous recevons sincèrement la parole de Dieu. Waouh! Merveilleux Seigneur, merci. Notre Dieu, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ainsi, je nous proposerai un thème ce matin. Je l'ai intitulé « Une promesse infaillible ». Une promesse infaillible. Gloire soit rendue à notre Dieu. Une promesse est donc l'action de promettre quelque chose. Quand nous parlons de la promesse, c'est une action de promettre quelque chose. Ou encore, une promesse, c'est un engagement. Un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. C'est un engagement. Une promesse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Aujourd'hui, dans notre monde, plusieurs promettent d'une manière ou d'une autre, ne sachant pas pourquoi est-ce qu'ils promettent, ne sachant pas également quelle est la puissance et la valeur d'une promesse. Une promesse, c'est un engagement que l'on prend. Quand tu promets à quelqu'un, c'est que tu t'es engagé. C'est ce que tu lui as promis. Une promesse, c'est donc un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Alors que l'adjectif qui l'accompagne dans notre thème, l'adjectif qui accompagne la promesse, dans notre thème, c'est quoi? Infaillible. Je disais donc, une promesse est l'action de promettre quelque chose. Un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Alors que l'adjectif qui l'accompagne dans notre thème renvoie à ce qui ne peut tromper, qui est certain et immanquable. Quand on dit quelque chose est infaillible, ça veut dire que c'est une chose qui est certaine, qui ne peut pas manquer, qui finira forcément par arriver. C'est ça en fait le caractère infaillible. Alors ces définitions nous font comprendre qu'une promesse infaillible dont nous parlons est donc un engagement qui est certain. Un engagement qui est certain, pardon. Un engagement qui est certain. C'est un engagement qui est anti-démagogique. Un engagement anti-démagogique. Il n'y a pas de démagogie à l'intérieur. Il n'y a pas de falsification à l'intérieur. Il n'y a pas de flatterie à l'intérieur. Il n'y a pas de tromperie à l'intérieur. Quand nous parlons d'une promesse infaillible ce matin, retenons cela. C'est un engagement qui est certain. C'est un engagement qui est antidémagogique. C'est un engagement qui mérite qu'une personne y réponde à haute voix « Amen ». Parce que, écoutez, sur la terre, ce n'est pas à toutes les phrases qu'on doit dire « Amen ». Ce n'est pas toutes les phrases, pas toutes les promesses qui sont dignes de recevoir nos amen. L'amen doit être attaché à des phrases, à des engagements, à des promesses infaillibles. À des promesses infaillibles. Ainsi, ne dis pas amen au meeting politique. Parce que nous avons vu des politiciens nous promettre et ne pas réaliser. Donc les promesses ne sont pas infaillibles. Ne dis pas amen à tout moment. Ne dis pas amen à ton mari, ne dis pas amen à ta femme, ne dis pas amen à ton fiancé. Parce que nous avons vu des maris promettre à leur femme et ne pas réaliser. Nous avons vu des fiancés promettre à leur fiancé et ne pas réaliser. Une promesse infaillible, c'est une promesse qui mérite qu'une personne y réponde en criant à haute voix « Amen ». Car « Amen » veut dire qu'il en soit ainsi. Donc quand un homme te promet, quand tu sais, tu es certain que cette promesse-là ne va pas mentir. C'est à cette promesse-là qu'on dit Amen. Alléluia. Et à une telle promesse, il y a lieu d'espérer. Car une promesse engendre une expérience. Nous allons les voir un peu plus tard. Une promesse, quand on promet à quelqu'un, dès l'instant où la promesse
frappe l'oreille de la personne reçoit ce qu'on appelle l'espérance. De la promesse engendre l'espérance. Alors, c'est à la promesse infaillible que l'espérance doit naître. C'est à une promesse infaillible que l'espérance doit naître. Amen. Cette déclaration de Balaam, notez, cette déclaration de Balaam, quelle déclaration ? Dieu n'est point un homme pour... C'est Balaam qui l'a dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Cette déclaration de Balaam est une vérité indéniable des Écritures qui peut être vérifiée dans la vie de ceux qui ont marché et qui marchent avec Dieu sur la terre. C'est une vérité indéniable. Et cette vérité peut être vérifiée. Si vous voyez les personnes qui ont marché avec Dieu sur la terre, vous vérifiez dans leur vie, vous trouverez cette vérité. Vous allez dans la vie d'Abraham, vous vérifiez la vie d'Abraham, vous trouverez que certainement dans un épisode de sa vie, Dieu lui avait promis et Dieu a réalisé la promesse. Donc Abraham peut dire, Dieu n'est point un homme pour mentir. Abraham peut dire, Dieu n'est point un fils de l'homme pour se repentir. C'est une vérité qui est vérifiable dans la vie d'Abraham. Si vous allez dans la vie de David, ce sont des hommes qui ont marché avec Dieu sur la terre. J'ai dit que c'est une vérité, cette vérité peut être vérifiée dans la vie de ceux qui ont marché avec Dieu sur la terre. Ceux qui ont marché avec Dieu sur la terre, entre autres, nous avons Abraham. Nous avons David. Dieu a promis à David. Et puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, cette promesse était bel et bien accomplie. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui promet, il n'est point un homme. C'est une vérité. Vous allez dans la vie de Paul, vous trouverez cette vérité. Ça, ce sont des hommes qui ont marché avec Dieu. Et j'ai dit que dans cette vérité peut être aussi vérifiable dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu sur la terre. Tu connais quelqu'un qui marche avec Dieu sur la terre?
Oui.
C'est qui?
Moi.
C'est moi. Alléluia. Tu marches avec Dieu sur la terre. Laisse-moi te dire que cette vérité des Écritures peut être vérifiable dans ta vie. Ah, c'est une vérité qui peut être vérifiable dans ta vie. Alors notez, la Bible ne contient pas des fables. Ça veut dire des récits imaginaires pour juste émousser les hommes. La Bible ne contient pas des récits imaginaires pour émousser les hommes. Non. Ce n'est pas des choses que nous lisons pour juste nous émousser, pour juste nous faire plaisir. Non. La Bible ne contient pas des fables ou des récits imaginaires pour juste émousser les hommes. Elle renferme plutôt des trésors énormes qui sont trouvés par ceux qui la croient. La Bible renferme des trésors énormes. Les gens qui trouvent les trésors de la Bible, ce sont ceux-là qui croient dans la Bible. Mais si tu ne crois pas à la Bible, tu ne trouveras jamais des trésors qu'elle a. Si tu ne crois pas à la Bible, tu ne trouveras jamais. En elle se trouvent des trésors. Dans la parole de Dieu, il y a des trésors. Et pour les trouver, tu dois croire en elle. J'ai redit cette phrase du pasteur qui avait dit, la Bible ne sert pas ceux qui la portent, mais la Bible sert ceux qui la croient. Ne pense pas, tel que nous sommes ici, presque tout le monde a un téléphone. Et presque dans les téléphones de tout le monde, il y a des Bibles. Ou soit la Bible, tout le monde peut en procurer. C'est disponible, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut avoir la Bible. Tout le monde peut porter la Bible. Mais écoutez, ce n'est pas tout celui qui porte la Bible qui trouve les trésors qu'il y a dans la Bible. Pour trouver les trésors qu'il y a, il faut croire en elle. Alléluia. Il faut croire à la Bible. Ainsi, si la Bible n'a que des histoires illusoires, sans preuve palpable dans la vie de ceux qui la croient, les chrétiens seront alors les plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Si la Bible n'avait que des histoires illusoires, juste des histoires illusoires qui ne sont pas palpables, sans preuve palpable dans la vie de ceux qui le croient, nous serons les plus malheureux de tous. Je prie ce matin que tu aies des preuves palpables.
Pendant que j'étais en train de préparer, je me disais, Seigneur, fais en sorte que quelqu'un ne finisse pas cette année, ne finisse pas ces mois, ne finisse pas ces jours, afin, avant de voir les preuves palpables de ta parole. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir des preuves. Vous savez pourquoi est-ce que la foi de plusieurs vacille? Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Je prie que tu aies des preuves. Si tu n'as pas de preuves de la foi, tu n'as pas de preuves de ce que dit les Écritures, pour toi la Bible n'est que des histoires. Tu as lu, Dieu a donné l'enfant à Anne, qui était stérile. Tu as lu, et puis ça s'arrête là. Et puis toi tu cherches d'enfant, hein, et puis tu n'en as pas, et puis tu meurs. Tu seras le plus malheureux. Il faut qu'Anne lise, après avoir lu, que ce que j'ai lu devienne réalité dans ma vie. Ah, je prie que ce que tu lis là dans la Bible devienne la réalité. Je prie que ta lettre, tout que tu vas faire cette semaine devienne la réalité. Je prie que la lettre, tout que tu vas faire aujourd'hui devienne une réalité. Tu as besoin de preuves. Tu as besoin de preuves. Car c'est par des preuves que la foi se solidifie. Hein? C'est par des preuves que la foi se solidifie. Tu as besoin que ta foi se solidifie. C'est en ayant des preuves. Alléluia. Alors, que retenir? Que pouvons-nous retenir sur ce thème ce matin? Que pouvons-nous retenir sur ce thème ce matin? Sur ce thème, une promesse infaillible. Que pouvons-nous retenir là-dessus ce matin? Donc, pour une bonne analyse de notre thème de ce matin, nous considérerons tour à tour 1. La qualité de celui qui promet. 2. Des tentatives infructueuses. Et 3, une espérance bénie. Je disais donc, nous verrons premièrement la qualité de celui qui promet. Deuxièmement, nous verrons des tentatives infructueuses. Et troisièmement, nous verrons une espérance bénie. Est-ce que nous sommes ensemble? Une espérance bénie. La qualité de celui qui promet. Dans notre texte de base que nous venons de lire, Nombre chapitre 23, Les versets 19. Dans notre texte de base, les prometteurs, celui qui promet donc, est tout de suite mis en exergue dans les propos de Balaam. Tout de suite, quand nous lisons, nous voyons en avant-plan celui qui a promis. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Les prometteurs est mis en avant. Les distinguants. Je disais, dans notre texte de base, les prometteurs est tout de suite mis en exergue dans les propos de Balaam, les distingua ainsi de toutes les personnes sur la terre. Dieu n'est point un homme. C'est une distinction. Tu dois différencier Dieu de tous les hommes. Dieu n'est pas un homme qu'on doit mélanger. Dieu est un homme qu'on doit mettre à, est une personne qu'on doit mettre à part. Dieu ne peut pas être mélangé avec les autres. Non. Balaam dit, Dieu n'est point un homme. C'est une différence, une démarcation. Tout de suite, dès que tu lis ce texte, dès que tu lis ce verset, tu y as déjà en tête celui qui promet. C'est Dieu. Qui est différent, qu'on doit distinguer des autres. Alors, notez que cette distinction, on doit distinguer Dieu des autres. On doit séparer Dieu. Dieu ne peut pas être mêlé avec les autres. Il est un Dieu qu'on doit mettre à part. Tu ne peux pas croire à la promesse de ton oncle puisque à l'égalité avec la promesse de Dieu. Non. Tu ne peux pas croire à la promesse de ton patron, de ton chef d'entreprise, à l'égal avec Dieu. Non. Tu dois distinguer Dieu des autres. Alors cette distinction se résume dans le fait que l'homme promet en fonction du temps. L'homme, quand il promet, il te promet en fonction du temps. Parce qu'il est lui-même dans les temps. Nous allons voir un président de la République. Jamais un président sortant ne va promettre à un peuple. Jamais. Il va promettre dans son temps. Jamais un chef d'entreprise ne va promettre en dehors de son règne. Non, il va promettre dans les temps de son règne. Donc l'homme, quand il promet, l'homme promet en fonction du temps. Alléluia. Toutes les promesses que tu as eues des hommes, ce sont en fonction du temps. Ce sont des promesses qui sont faites en fonction du temps.
L'homme, je disais, cette distinction se résume dans le fait que l'homme promet en fonction du temps. Mais Dieu le fait en fonction de l'éternité. Dieu, quand il promet en fonction de l'éternité. Il ne promet pas en fonction du temps. L'éternité sort du contexte du temps. Dieu promet en dehors du temps. Il promet dans l'éternité. Alors, de ce fait, ça veut dire Dieu, il est capable de prendre l'homme qui vit dans le temps. Dieu est capable de prendre l'homme qui vit dans le temps pour l'introduire dans son éternité, afin que ce dernier expérimente la réalité de ce qu'il lui a promis. Vous savez, quand Dieu vous promet, ne regardez pas le temps. Parce que Dieu est capable de te prendre toi. Il t'introduit dans l'éternité pour juste que tu vives ce qu'il t'a promis. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 21, le verset 20 à 22, Jésus parle à Pierre, au verset déjà 15, il parle à Pierre ainsi de suite, et il dit à Pierre, suis-moi et tout. Arrivé au verset 20, Pierre va se retourner, pendant qu'il suivait Jésus, il va voir s'approcher de Jésus, les disciples que Jésus aimait. Il s'approche. Pierre va se retourner, va dire à Jésus, Seigneur, qu'arriverait-il à celui qui nous suit là? Jésus va lui dire une réponse formidable. En les voyant, Pierre dit à Jésus, est-ce lui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Le verset 22 est formidable, notez. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que, depuis que Jésus est parti jusqu'à présent, ça fait combien d'années? Plus de 2000 ans. Jésus était capable d'introduire ses disciples dans l'éternité. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Dieu est capable de te prendre, toi, une personne. Il t'introduit dans l'éternité. Il te prend, toi, la personne, il t'introduit dans l'éternité. Oh! Je prie que le Seigneur t'introduise dans l'éternité. Ainsi, quand Dieu te promet, ne regarde pas le temps. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas le temps. Car il peut, toi tu dépends du temps. C'est toi qui dépends du temps. C'est moi qui dépend du temps. C'est l'homme qui dépend du temps. Nous le voyons avec Sarah. Dans Genèse chapitre 18. Le verset 9 à 14. Genèse chapitre 18. Le Seigneur apparaît à Abraham. Il apparaît à Abraham et Abraham le reçoit et ainsi de suite. Pendant qu'il s'est conversé, Dieu va dire à Abraham, où est Sarah ta femme? L'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, te donnera un fils. Sarah avait quel âge? Elle avait 99 ans à cette époque-là. 99. Médicalement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Mais Dieu a pris Sarah dans les temps. Il l'a amenée dans l'éternité. Afin que Sarah conçoive. Ah, il a pris Sarah. Il a amené Sarah dans l'éternité. Pour lui dire que toi tu dépends du temps. C'est ton corps qui dépend du temps, mais pas ma promesse. C'est ton corps qui dépend du temps, pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu transcende le temps. La promesse de Dieu va dans l'éternité. C'est ton corps qui a un problème. Ce n'est pas la promesse de Dieu qui a un problème. C'est ton corps qui a un problème. Alléluia. Dans les temps, l'homme est soumis aux lois. Dans les temps, l'homme est soumis aux lois. Si vous lisez, on reste dans Genèse là, Genèse chapitre 18. Vous verrez que Sarah va dire, en souriant, comment est-ce que je peux avoir un enfant? Moi qui suis vieille. Ça, c'est la loi. Je disais que dans les temps, l'homme est soumis aux lois. Que ce soit les lois de la nature, que ce soit les lois de la société, l'homme en général est soumis au temps. Il est soumis aux lois dans les temps. Sarah dit, moi je suis vieille. Et deuxièmement, elle dit, mon Seigneur n'aura plus de désirs. C'est impossible. Ce sont des lois.
qui liait Sarah par rapport au temps. Dans les temps, l'homme est soumis aux lois. Mais dans son éternité, Dieu est au-dessus de toutes les lois imposables aux hommes. Dans l'éternité, Dieu est au-dessus de toutes les lois. J'aimerais dire à une personne ce matin, toutes les lois qui peuvent te réclamer pour que tu ne vives pas la promesse de Dieu sont contrôlables et maîtrisables par Dieu. Toutes les lois qui peuvent t'empêcher à expérimenter ce que Dieu t'a dit sont contrôlables et maîtrisables par Dieu. Contrôlables et maîtrisables par Dieu. Ce sont les hommes qui sont limités dans les temps, mais Dieu qui promet n'est pas limité dans les temps. Ça m'a étonné. Comment une telle déclaration? Quelle déclaration? Dieu n'est point un homme pour mentir. Comment une telle déclaration peut-elle sortir d'un devin? Balaam n'est pas un prophète de l'Éternel, non. Il est un devin, un charlatan, un enchanteur. Si vous lisez dans tous les contextes commençant au chapitre 22 jusqu'à vous allez au chapitre 24, vous allez trouver que Balaam est en train de faire les enchantements, la magie. Il n'était pas un prophète de l'Éternel, il était un devin. Mais ça m'étonne qu'une telle déclaration sorte d'un devin. Comment une telle déclaration peut-elle sortir d'un devin? Notez, Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment grand, au point qu'il est adoré par ses enfants et il est respecté, même par ceux, entre guillemets, qui lui sont rebelles. Dieu est adoré par ses enfants, même par ceux qui lui sont rebelles, ils respectent Dieu. Même par ceux qui sont rebelles, entre guillemets, à Dieu. Les démons là, ils respectent Dieu. La Bible ne dit-elle pas dans Jacques chapitre 2 que les démons, toi tu crois que Dieu existe, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent. Dieu est tellement grand au point qu'il est adoré par ses enfants et respecté même par ceux qui lui sont, entre guillemets, rebelles. Ainsi, sa grandeur, ça je parle aux enfants de Dieu, la grandeur de Dieu, sa grandeur n'est pas limitée à ma circonscription. Non, la grandeur de Dieu ne se limite pas à ton niveau, ne se limite pas à ton coin, la grandeur de Dieu ne se limite pas à ton pays. Ne se limite pas à ton territoire, ne se limite pas à ta ville, ne se limite pas à ta province. Non, la grandeur de Dieu va au-delà des limites, de tes limites territoriales. Au-delà de tes limites territoriales. Dieu est immensement, infiniment grand. Il est grand à Matadi, il est grand à Kinshasa, il est grand à Brazzaville, il est grand au Gabon. Il est grand dans toute l'Afrique, il est grand en Amérique, il est grand partout. Dans tout l'univers, Dieu est infiniment. Il est infiniment grand. Ne limite pas la grandeur de Dieu en fonction de ta circonscription. Non. Ne limite pas la grandeur de Dieu à ta circonscription. Il est infiniment grand. Alléluia. Sur la terre, l'homme peut recevoir des promesses de ses semblables. L'homme peut recevoir des promesses de ses semblables. Je n'interdis pas ici aux hommes de ne plus faire des promesses. Non, fais des promesses. Et je ne t'interdis pas aussi de ne plus croire aux promesses. Non, crois aux promesses des gens. Sur la terre, l'homme peut recevoir des promesses de ses semblables. Et cela peut d'une manière ou d'une autre, soit les décevoir, n'est-ce pas? Soit les décevoir ou soit les satisfaire, mais partiellement. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi la suite. Soit les décevoir, soit les satisfaire partiellement. Celles qui viennent de Dieu, les promesses qui viennent de Dieu, doivent constituer la base de sa vie. Les promesses qui viennent de Dieu doivent constituer la base de ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme te connaît partiellement. L'homme te connaît, il te connaît, ton frère à tes côtés, ta sœur, ton mari, ta femme, ton père, ta mère, tes enfants, ton professeur, tes collègues au travail, tes collègues à l'université, je sais pas moi qui, tout le monde, tes responsables, te connaissent, mais ils te connaissent partiellement. Il n'y a que Dieu qui te connaît dans ta totalité. Celui qui te connaît dans la totalité, c'est Dieu. Ainsi, quand il te promet, il ne te promet pas pour répondre à une partie de ta vie. Il te promet pour combler la totalité de ta vie. Quand Dieu te promet, il te promet pour combler la totalité de ta vie. Car il te connaît dans ta totalité. Il ne te connaît pas partiellement. Peu importe ce que les hommes seront pour nous, ils ne nous connaîtront pas dans la totalité. Jamais. Jamais. Ils ne nous connaîtront pas dans la totalité. Ainsi, toute l'aide qu'il peut nous proposer sera partielle. Sera partielle. Le Tout-Puissant est le seul à avoir reçu un témoignage excluant toute démagogie. Il est le seul à recevoir un témoignage excluant toute démagogie. J'avais dit que la démagogie, c'est le fait de parler, en d'autres termes, c'est le fait de flatter la foule, de séduire la foule, de flatter la foule. Dieu, quand il te promet, il ne te promet pas pour te flatter. C'est le Tout-Puissant qui a reçu ce témoignage. Josué chapitre 21, le verset 45. C'est un texte formidable. C'est le Tout-Puissant qui a reçu ce témoignage excluant toute démagogie. Josué, chapitre 21, le verset 45. Le verset 45. C'est un texte formidable. De toutes, nous pouvons lire ensemble. De toutes les bonnes paroles. On ne dit pas une partie des bonnes paroles. Mais de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Notez la suite. La suite dit ceci. Tous ensemble. Aucune ne resta sans effet. Alléluia. Aucune ne resta sans effet. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que Dieu t'a dit, aucune ne restera sans effet. Toutes les paroles que tu as reçues de la part du Seigneur, aucune ne restera sans effet. Aucune ne restera sans effet. La suite, toutes s'accomplissent. Tout ce que Dieu t'a dit, puisque cela venait de Dieu, tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur va s'accomplir. Oh, je prie ce matin que tu renforces ta foi en Dieu, que tu croies encore en Dieu, car quand Dieu te promet, il ne laissera tomber aucune phrase de sa promesse. Il ne laissera tomber aucune phrase de sa promesse. C'est les hommes qui promettent, ils te promettent, ils te donnent 10 promesses, ils réalisent 5 ou 6 promesses. Dieu, quand il te dit 10 mots, dans chaque mot, il y a l'accomplissement. Quand il te dit 10 mots, 100 mots, dans chaque mot, il y a l'accomplissement. Car il pèse bien ses mots. J'aime Dieu parce qu'il pèse bien ses mots. Bien-aimés, les hommes, quand ils parlent en vrac. Quand Dieu parle, il parle avec précision. Dieu, quand il parle, il pèse les mots. Quand Dieu parle, il pèse les mots. Oh, je prie en disant, le Seigneur, ce que tu as reçu, ce sont des phrases qui sont bien pesées par le Seigneur. Ce sont les mots qui sont bien pesés par le Seigneur. Dieu pèse bien ses mots. Il ne parle pas en vrac. Il ne parle pas par plaisir. Non. Il ne parle pas pour te mousser seulement. Non. Il ne parle pas pour gagner ta confiance. Non. Il ne parle pas pour te flatter. Non. Car du reste, nous allons le voir, tu n'as aucun effort à fournir dans l'accomplissement de la promesse. Tu n'as aucun effort à fournir. Alléluia. La promesse venue d'en haut n'a pas besoin d'une défense terrestre pour son accomplissement. Non, car elle a les moyens d'effrayer un chemin elle-même, même au milieu de nulle part. La promesse venant du Père, la promesse venant d'en haut, est capable d'effrayer son propre chemin. Tu n'as pas besoin de négocier avec Dieu pour l'accomplissement de tes promesses. Tu n'as pas besoin de négocier, d'effrayer le chemin pour la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit que tu auras le travail. Ne cherche pas ne fais pas de coups bas. Hein? Ne va pas corrompre ce chef-là. Parce que la promesse ne vient pas de lui. La promesse vient de Dieu. Puisque la promesse vient de Dieu, attends, le bique, qu'on a pas engagé à rater. Si c'est Dieu qui t'a promis, Dieu est capable de frayer lui-même les chemins.
Oh, je prie que cette semaine que Dieu fraye les chemins. Dans ce qu'il t'a promis qu'il te fraye les chemins. Que la promesse fraye les chemins. Que la promesse fraye les chemins. Que ce que tu as reçu de la part de Dieu se fraye un chemin. Se fraye un chemin. Tu ne vas pas négocier pour l'accomplissement de la promesse. Non. Ce n'est pas à l'homme promis de se débrouiller pour chercher les moyens de l'accomplissement de sa promesse. Tu ne vas pas te débrouiller pour chercher les moyens de l'accomplissement. Non. Parce que celui qui a promis, il a tous les moyens nécessaires. Alléluia. Il a tous les moyens nécessaires. Voyons deuxièmement des tentatives infructueuses. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Des tentatives infructueuses. Ce qui te vient de Dieu ne sera jamais décimé par les hommes. Peu importe leur jalousie. Ni par les diables. Quelle que soit sa grande cruauté. Ce qui te vient de Dieu ne sera jamais décimé par les hommes. Peu importe leur jalousie. Qu'ils te jalousent. Jalousez-moi comme vous voulez. Ce que j'ai reçu de Dieu, ça reste. Le diable, soit cruel comme tu veux. Ce que j'ai reçu de Dieu, reste. Ce qui te vient, à condition que tu le reçoives dans des situations, dans des conditions magouilleuses. Mais si ce que tu as reçu te vient de Dieu, aucun homme, je dis bien aucun homme, ils tenteront, ils essayeront, mais leurs tentatives seront infructueuses. Remarquez que cette phrase de Balaam, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Cette phrase de Balaam, cette déclaration de Balaam, cette phrase prononcée par Balaam, est sortie dans le cadre de sa deuxième tentative de maudire Israël, peuple béni de l'Éternel. C'était à sa deuxième tentative. Si vous lisez le chapitre 23, vous commencez au début, vous allez voir la première tentative. Il va dire à Balak, construis cet autel, donne cet holocauste, nous allons offrir, j'irai à la rencontre de l'Éternel, et il me dira, et je viendrai te dire. Ils offrent les sacrifices, ils partent, le Seigneur et l'Éternel, par sa grâce, les rencontrent, Dieu lui donne les paroles. Balaam vient, il dit à Balak, normalement, il a fallu qu'il s'arrête là. Il a fallu qu'il s'arrête là. Mais puisque et Balaam ne voulaient pas croire à ce que Dieu avait dit, il a dit encore à Balaam, construis encore sept autels. Sacrifie encore sept taureaux. Ils ont encore sacrifié. Il part pour la deuxième fois. Et c'est en revenant qu'il donne cette phrase. Que Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est sa deuxième tentative de maudire. Ça m'a étonné, c'est étonnant que ces deux hommes, Balak et Balaam, soient si insistants dans leur plan. Pourtant, ils savaient dès l'entame ce que Dieu voulait pour ce peuple. C'est étonnant de les voir insistants. Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous continuez à tenter? Alors que Dieu vous a déjà dit ce que sa volonté. Ça m'a donné quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Écoutez. Les multiples tentatives de Balaam n'ont fait que révéler au monde la valeur qu'Israël avait auprès de Dieu. Les multiples tentatives de Balaam n'ont fait que révéler au monde ce que Israël avait, ou ce que la valeur d'Israël, la valeur cachée d'Israël auprès de l'Éternel. Écoutez, il y a des dimensions de toi que tu ne découvriras que devant les embûches de l'ennemi. Tant que Balaam et Balak ne tentaient pas à maudire Israël, on ne connaîtra pas les profondeurs qu'il y a dans ces textes. On ne les connaîtra pas. Israël est un peuple aimé de Dieu, Dieu le sait. Est un peuple béni par l'Éternel, Dieu le sait. Mais pour que le monde sache qu'Israël est aimé de l'Éternel, béni de Dieu, Balaam va faire des tentatives.
toutes ces tentatives-là n'ont fait que provoquer Dieu à fait à révéler au monde ce qui réellement était Israël. Ce que tu connais, les tentatives de l'ennemi dans ta vie, ne feront que révéler au monde ce que tu es réellement. C'est que tu ne te plains pas pourquoi est-ce que le diable te combat. Ne te plains pas pourquoi est-ce que le diable te cherche. Ne te plains pas pourquoi est-ce que le diable veut te détruire. Ne te plains pas. Car derrière cette tentative, il y a une révélation que le monde doit connaître de toi. Ah, derrière cette tentative, il y a une révélation que le monde connaîtra de toi. Oui. La sécurité de l'homme promis et l'accomplissement de sa promesse divine, ne sont pas garantis par les paroles de la promesse. Écoutez. Dieu te dit quelque chose. Ta sécurité à toi et l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit ne sont pas garantis par les phrases de la promesse. Mais elles sont garanties, elles sont assurées par la puissance de celui qui a promis. De telle sorte que si les hommes cherchent à coincer parce qu'ils ont entendu, son auteur trouvera un autre chemin. Si les hommes cherchent à coincer, Dieu t'a promis que tu auras une promotion. Ton chef commence à coincer parce qu'il a entendu que Dieu t'a promis. Si les hommes croient que ta promesse se limite au niveau des paroles, alors que la promesse ne se limite pas au niveau des paroles, la promesse va au-delà des paroles. La promesse voit l'auteur, celui qui a fait la promesse. Alléluia. C'est ce que les principaux sacrificateurs ont connu. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont malheureusement expérimenté cet échec en voulant à tout prix surveiller la tombe de Jésus. Afin d'arrêter un dessein préétabli par Dieu, la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont, si nous lisons dans Matthieu chapitre 27, vous commencez au verset 62, verset 66, nous n'allons pas lire faute de temps. Et le chapitre 28, le verset 1 à 4, et vous prenez de 11 à 15. C'est là où je suis. Pendant que Jésus vivait, Jésus avait dit, disait aux disciples que je vais mourir et dans 3 jours, je ressusciterai. Les principaux sacrificateurs aussi ont entendu. Or, c'était une promesse de Dieu. Et ils ont saisi la parole. Ils ont dit, ok, comme ce type est mort, prenons les gardes. Mettons-les dans la tombe. Surveillons la tombe pour réellement voir si cet homme va ressusciter. Ils ont voulu surveiller la promesse. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'Ève déclare qu'un ange est venu du ciel. Pour ta promesse, pour son accomplissement. Quand les hommes surveillent, c'est l'ange qui descendra du ciel. L'ordre viendra d'en haut. L'ordre ne viendra pas des hommes. Celui qui bloque cela, celui qui bloque rencontrera l'ordre du ciel. Celui qui bloque ce que Dieu t'a promis, celui qui bloque ce que Dieu t'a dit, rencontrera l'ordre venant du ciel. Parce que les principaux sacrificateurs disaient, peut-être ses disciples viendront, ils vont enlever le corps, et puis ils diront que Jésus, qu'il est ressuscité, et ainsi de suite. Les disciples ne sont pas venus. Dans ta situation, ce ne sont pas les hommes qui viendront intervenir. Comme nous l'avons vu le vendredi, ce ne sont pas les hommes qui viendront intervenir. C'est Dieu lui-même qui dépêchera quelqu'un pour venir intervenir. Hein? L'ange est descendu pour venir intervenir. Car la terre ne saura arrêter une promesse dont l'origine lui est inconnue. Ce n'est pas toi qui as fait la promesse, et puis tu veux l'arrêter. Comment ça? C'est une promesse dont l'origine t'est inconnue. Ne cherche pas de coups bas. Ne tente même pas. Parce que tu vas échouer à toi. Tu vas échouer. Alors rapidement, avant de terminer ce point, nous remarquons dans cette histoire de Balaam, nous remarquons dans cette histoire 2 faits importants qui m'ont marqué. 2 faits. Dans cette histoire, j'ai remarqué 2 faits qui m'ont marqué. Le premier fait, c'est que Israël n'était même pas au courant de toutes les manœuvres de Balak et de Balaam contre lui. Israël n'était même pas au courant. Israël ne savait même pas qu'est-ce que Balaam complotait, qu'est-ce que Balak complotait. Israël ne savait pas, il n'était pas au courant. Israël n'était même pas au courant de toutes les manœuvres de Balak et de Balaam contre lui.
Mais son Dieu était bien présent au point de perturber les enchantements de Balaam. Israël, lui, ne savait pas, mais Dieu savait. Mais son Dieu savait. Écoutez, tu n'as pas besoin de tout connaître autour de toi. Tu n'as pas besoin de connaître tout ce qui se passe autour de toi pour être en sécurité. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser autour de toi pour te dire que voilà, je suis maintenant en paix. Non, que je maîtrise ou que je ne maîtrise pas, il y a quelqu'un qui maîtrise des choses à ma place. Il y a quelqu'un qui maîtrise des choses à ma place. Il s'appelle le Dieu vivant. Des choses qui t'échappent, n'échappent pas à Dieu. Des choses que tu ne maîtrises pas, Dieu les maîtrise. Des choses que tu ne sais pas contrôler, Dieu les contrôle. Des choses que toi tu ne sais pas gérer, Dieu les gère. Israël n'était pas au courant. Il ne savait même pas. Il ne savait même pas. Il était ignorant. Mais son Dieu était là. Mais son Dieu était là. Oh, je prie que ton Dieu soit là. Quand toi tu vas dormir, quand toi tu ne seras pas attentif, ton Dieu sera attentif à ta place. Ton Dieu sera là. Heureusement que nous invoquons un Dieu. Heureusement que nous prions un Dieu qui est vivant. Tu ne pries pas un Dieu mort. Tu ne pries pas un Dieu mort. Tu pries un Dieu vivant. De telle sorte que quand si toi, des choses t'échappent, il y a des choses qui n'échapperont pas à Dieu. Il y a des choses qui n'échapperont pas à Dieu. Je prierai. Je chasserai les démons. C'est vrai. Je prierai. C'est vrai. Je ferai tout. Mais quant à ma sécurité, elle est assurée par l'amour et la surveillance du Très-Haut. Ta sécurité n'est pas assurée par tes prières. Ta sécurité n'est pas assurée par ta surveillance, par ta vigilance. Oh, je reste vigilant. Qu'est-ce que l'oncle a dit? Je reste vigilant. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le travail? Je reste vigilant. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ma porte? Ils mettront des choses dans ma porte. Ils mettront des choses sur mon chemin. Je passerai. Rien ne se fera. Parce que Dieu veille sur moi. Parce que Dieu a déjà anéanti tous les plans de l'ennemi. Parce que Dieu a déjà anéanti. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Non. Tu n'as pas besoin de tout savoir, de tout maîtriser. Non. Il y a des choses que tu ne maîtriseras pas. Il y a des combats que Dieu livre pour toi qui ne te montre pas. Il y a des combats que Dieu livre pour toi qui ne te montre pas. Dieu n'est pas obligé de te montrer tous les combats qu'il livre pour toi. Dieu n'est pas obligé de te montrer en détail toutes les luttes qu'il livre pour toi. Israël n'était pas au courant, mais Dieu est en train de lutter pour lui. Il était en train de combattre en sa faveur. Il n'était même pas au courant. Combien de gens aujourd'hui vivent dans la peur? Les enfants de Dieu vivent dans la peur. Où est Adam Amoutou? N'a repris sa chemise d'Angaï. Alors que Nango Wapi, j'ai vu donner ma photo. Prenez ma chemise. Amenez-la où vous voulez. Amenez-la où vous voulez. Il y a des choses que Dieu défendra. Mon Dieu me défendra là-bas. Je ne serai pas là, mais lui sera là. Toi, tu ne seras pas là, mais ton Dieu sera là. Toi, tu seras absent, mais ton Dieu sera présent. Oh, ton Dieu sera présent. J'ai dit que ton Dieu sera présent. Devant tes ennemis, ton Dieu sera présent. Devant ceux qui cherchent à comploter sur toi, ton Dieu sera présent. N'est-il pas écrit, quand ils formeront des projets, cela ne viendra pas de moi. Toi, tu savais qu'ils formaient des projets, non? Mais Dieu sait qu'ils sont en train de former les projets. Pourquoi? Parce qu'il est avec eux. Ils étaient avec eux. Tes ennemis auront un problème, car Dieu est avec eux. Tes ennemis ont un sérieux problème, parce que Dieu est avec eux. Tu n'as pas besoin d'être trop vigilant à côté. Prie, cherche la face de Dieu. Prie, cherche Dieu, gêne, prie, chasse les démons, prends autorité, c'est bon. Mais il y a des combats que Dieu livre pour toi, que tu ne sais pas. Alléluia. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et la deuxième des choses, je dois dire ça comme ça. Israël, dans sa marche avec Dieu, venait de commettre la deuxième chose que j'ai remarquée. Israël, dans sa marche avec Dieu, venait de commettre des choses qui l'exposaient valablement auprès de l'ennemi. Dans sa marche avec Dieu, Israël a commis des choses. Nous nous souvenons de l'épisode du veau d'or. Nous nous souvenons de l'épisode Amara. Ils ont murmuré. Nous nous souvenons de plusieurs épisodes. Nous nous souvenons de l'épisode du serpent des reins qui était récent dans Nombre chapitre 21. C'est récent. Dans Nombre chapitre 22, Dieu va les défendre. Il avait commis des choses qui pouvait l'exposer pour qu'il soit la proie de l'ennemi. Mais chose étonnante, Dieu va prendre sa défense à l'externe. Dieu va prendre sa défense à l'externe afin de régler, de traiter avec lui à l'interne. Bien-aimé, je suis venu te dire que ton Dieu ne t'exposera pas. Devant l'ennemi, Dieu ne t'exposera pas. Devant l'adversaire, Dieu ne t'exposera pas. Il traitera avec toi à l'interne, il t'étendra à l'externe, il te défendra à l'externe. Je ne suis pas venu t'encourager à pécher. Non, je ne suis pas venu à encourager un homme à commettre du péché. Non. Si tu pèches, répands-toi. Traite avec Dieu à l'externe, à l'interne. Mais à l'externe, la défense est assurée. Alléluia! À l'externe, la défense est assurée. Ma sainteté, ma haute sainteté ne suffirait pas pour assurer ma position auprès du Père. Ta haute sainteté ne suffira pas pour assurer ta place auprès du Père. Ce qui suffit, c'est l'action de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui suffit pour que tu sois maintenu à sa table. Qui suffit pour que tu sois maintenu dans ta présence, dans sa présence. Alléluia! Je craindrai Dieu. Je marcherai dans la crainte de Dieu. Je ferai tout. Mais, ma sécurité, au-delà de tout ça, c'est l'amour de Dieu. Il règle avec moi à l'interne. Si seulement Dieu nous exposait chacun de nous ici, qui resterait dans cette église? Qui prêcherait? Qui chanterait? Qui conduirait les départements? Qui conduirait l'intercession? Qui conduirait qui? Qui? Si Dieu commençait à exposer chacun de nous, je ne serais pas devant vous ici. Je vous assure. Si Dieu commençait à exposer, mais le bien avec Dieu, c'est qu'il traite avec moi à l'interne. Il règle ma situation à l'interne. Il traite avec moi. Il arrange avec moi à l'interne. Et quand on vient en public, quand Balaam veut mourir, il dit, attention, c'est un peuple béni. C'est un peuple béni qui vient de pécher tout à l'heure. Oui, à l'interne, on a arrangé. À l'externe, ne touche pas. À l'externe, ne touche pas. On ne te touchera pas. On ne te touchera pas. Alléluia. On ne te touchera pas. Voyons rapidement avant de terminer. Une espérance bénie. Une espérance bénie. La promesse, j'avais dit que la promesse engendre une espérance. La promesse engendre une espérance. Alors, dans les Saintes Écritures, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous trouvons de nombreuses promesses divines. Nous avons, dans la Bible, nous trouvons de nombreuses promesses divines. Nous avons, entre autres, Deutéronome chapitre 28, le verset 13, « Tu seras la tête et non la queue. » Josué chapitre 1, le verset 3, « Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. » Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont reçu. Ce sont des promesses. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Ce sont des promesses que nous trouvons. Il y en a tant d'autres dans les Écritures. Alors, mais notez que parmi toutes ces promesses, il y a trois d'entre eux qui sont principales. Dont deux qui ont déjà bouleversé le monde et une qui reste à venir très bientôt. Il y a trois principales promesses. Des promesses ont bouleversé le monde et une promesse reste à venir. La première promesse, c'est la vie de Jésus-Christ. Sa venue en sauveur, sa venue en libérateur. Nous avons plusieurs passages. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, les versets 15. Ésaïe chapitre 7, les versets 14. Ésaïe 53, 1 à 10, Romains 15, le verset 8, nous n'avons plus le temps pour lire. Mais si vous lisez, vous allez voir que Dieu a promis qu'il y aura Christ viendra sur la terre pour sauver les hommes, pour libérer les hommes. Cette venue nous donne accès, nous réconcilie avec le Père. Nous qui étions étrangers, nous étions loin de Dieu. Nous sommes désormais rapprochés de Dieu par la venue de Jésus-Christ. Et la deuxième promesse qui a bouleversé également les mondes, c'est la venue du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est une promesse. Et Jean chapitre 16 le confirme. Jean chapitre 16, les versets 7 et 8. Acte chapitre 1, les versets 8. Et Acte chapitre 2, les versets 32. C'est une promesse que Dieu... Ce sont des promesses, les deux promesses déjà accomplies. Et la troisième promesse qui reste à venir, c'est la venue, le retour de Jésus-Christ. Je ne peux pas citer, parler des promesses infaillibles sans toucher cette promesse. Je ne peux pas. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous terminerons par là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Le retour de Jésus est un grand aspect. Quand je parle du retour de Jésus ici, je fais plus allusion à l'enlèvement de l'Église. À l'enlèvement de l'Église. Frères, sœurs, l'Église attend une espérance bénie qui est son enlèvement. L'Église attend une espérance bénie. C'est l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets. Nous commençons même au verset 16. De préférence, vous lisez du verset 13 au verset 18. Mais nous prenons le verset 16 pour le temps. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alléluia! Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Nous serons tous ensemble enlevés. La promesse véritable que l'Église attend, la promesse véritable que l'Église doit soupirer, c'est l'enlèvement. Tu peux tout espérer. La meilleure espérance que l'Église a présentement, c'est voir le retour de Jésus-Christ. C'est l'enlèvement de Jésus. Alléluia. L'enlèvement est donc une promesse infaillible que Jésus a faite à l'Église pour les préserver. L'enlèvement est une promesse infaillible. Je dis bien, est une promesse infaillible. C'est une promesse infaillible. Ça ne ratera pas. Je suis venu te dire que l'enlèvement ne ratera pas. La venue de Jésus ne ratera pas. S'il a promis aux hommes et les hommes l'ont expérimenté, ce n'est pas l'enlèvement qui ratera. Le diable est en train de distraire plusieurs. Plusieurs aujourd'hui. En leur faisant croire que sur la terre, ils trouveront mieux que ce qui les attend au ciel. Bien-aimé, j'aimerais te dire, enfant de Dieu, il n'y a pas un meilleur endroit sur la terre qui sera mis au ciel. Peu importe l'endroit que tu seras sur la terre, aucun endroit sur la terre ne sera meilleur au ciel. Aucun. Va aux États-Unis, voyage, parcours le monde. Aucun endroit sur la terre ne sera meilleur que le ciel. Ainsi, ta destination meilleure, ce n'est pas la terre. Ta destination meilleure, c'est le ciel. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ veut t'enlever. Jésus-Christ veut te prendre. Veux-tu aller avec le Seigneur? Veux-tu être enlevé avec Christ? Prépare-toi à aller à la rencontre de Jésus. Prépare-toi à aller à la rencontre du grand Sauveur. Prépare-toi à cette rencontre. Préparons-nous à cette rencontre. La Bible dit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et l'Esprit et l'Épouse, nous tous nous soupirons à ce que le Seigneur vienne. Ça m'étonne aujourd'hui de voir les hommes qui disent encore, oh, Yesu vandananu, nan na balite, Yesu vandananu, nan na tongite, Yesu vandananu, nan na salima kama minenete. Bien aimé, aucun espoir tu pourras faire sur la terre ne sera meilleur que d'être enlevé au ciel. Aucun espoir que tu feras sur la terre ne sera meilleur que l'enlèvement. Attends et soupire, vois cette promesse, cette espérance bénie de l'Église. C'est une promesse qui ne manquera jamais. Comment prépares-tu cette venue du Seigneur? Le Seigneur revient bientôt, alors très bientôt. Et cette promesse n'échappera pas. Que personne ne te trompe. Que les diables ne te trompent pas. Que l'évolution de la technologie ne te trompe pas. Que tes comptes ne te trompent pas.
Que ton mariage ne te trompe pas. Que ton succès ne te trompe pas. Que tout ce que tu as ne te trompe pas. Jésus-Christ, il revient très bientôt. Il vient pour prendre son église. Es-tu prêt à aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ? Lève-nous dans la prière.
J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci.
Prépare ton enlèvement. Comment prépares-tu cette venue de Jésus? Alléluia. Passant mon temps. Est-ce que tu soupires après cette venue? Est-ce que tu soupires après cette promesse? Ne détourne pas tes regards à l'enlèvement. Ne détourne pas tes regards à la venue de Jésus. Alléluia.
J'irai là-haut.
Peut te sauver, c'est lui seul qui peut te libérer, c'est lui seul qui peut t'enlever.
Voici la fin.
Comment prépares-tu cet enlèvement? Comment prépares-tu cette venue de Jésus? Oh, j'aimerais te dire que Jésus est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Que le monde ne te distrait pas. Que le monde ne te trompe pas. Que les hommes ne te trompent pas. Que le travail ne te trompe pas.
Seigneur, je vais être prêt. Je vais être prêt. Je ne vais pas manquer. Mais l'enlèvement est un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Manque le rendez-vous d'un président. Manque le rendez-vous du ministre. Manque le rendez-vous de ton chef. Manque le rendez-vous de ton fiancé ou de ta fiancée. Manque le rendez-vous de ton père. Ne manque pas le rendez-vous de l'enlèvement. Ne manque pas le rendez-vous du ciel. Ne manque pas le rendez-vous de Jésus. Jésus revient bientôt et ce rendez-vous est imminent. Il revient bientôt et son rendez-vous est imminent.